Mais je n'arrive pas, parce que je vois tellement les limites de la vie, je vois tellement le mal, et c'est ça qui m'empêche d'arriver à affirmer l'existence de Dieu. Mais vous voyez, il restait une âme de bonne volonté. Il restait une âme de bonne volonté. Celui qui reste une âme de bonne volonté et qui ne trouve pas peut avoir un amour d'amitié qui est vrai, parce que ça reste ouvert. La recherche est ouverte. Ce que je dis ici, c'est par rapport à celui qui délibérément se ferme. Il faut faire grande attention là-dessus. Hein. Le cœur de l'homme qui cherche reste vrai. Tous ceux qui cherchent restent vrais. Mais c'est ceux qui, de fait, concluent en fonction d'un a priori, en fonction d'une première éducation, disent non, ça n'existe pas. Puis ils ont fermé la porte. Vous voyez ? Alors à ce moment-là, vous avez un athéisme qui est conscient, délibéré et voulu. Alors à ce moment-là, je dis cet athéisme renferme l'homme sur lui-même et fait qu'on a comme une espèce d'égoïsme à deux ou d'orgueil à deux. Mais lorsque les deux, il y en a un qui croit et l'autre qui cherche, celui qui croit porte pour l'autre. C'est pas toujours commode, hein. C'est pas toujours commode, parce que ça fait qu'il y a un petit porte-à-faux. Ça, c'est sûr. Mais s'il y a un très grand respect, ça peut se faire. S'il y a un très grand respect. C'est ce qu'on peut voir, si vous voulez, dans des couples où il n'y a pas la même religion. Il faut très bien de comprendre ça. Alors, il faut un très très grand respect pour le respect de l'autre. C'est pas commode. Parce que l'intention de vie et le dépassement de cet amour d'amitié, vous voyez, n'est pas entièrement en harmonie. Alors il faut un très grand respect à l'égard de ce que l'autre voit, croit, adhère. Alors, comprenons maintenant. Comment cette intention de vie doit se porter vers l'autre et dans cette recherche de l'autre. Au point de vue philosophique, hein, parce que nous restons toujours ainsi au point de vue philosophique. Au point de vue philosophique, nous pouvons découvrir l'existence de cet autre absolu, acte pur, qui est amour. Le philosophe peut dire que l'acte pur est nécessairement amour. Il peut le dire. Si Dieu existe, il peut être qu'amour. Si je vais jusqu'au bout, il ne peut être qu'amour. C'est impossible autrement. Il est esprit, il est vie, et peut être qu'amour. C'est ce qu'Aristote disait, cette magnifique affirmation d'Aristote. L'être premier qui est Dieu, c'est la contemplation de la contemplation. Noésis, noéseos. Très difficile à traduire. La pensée de la pensée, mais c'est plus que la pensée de la pensée. L'intuition de l'intuition, la contemplation de la contemplation. L'esprit peut être, Dieu peut être que la contemplation de la contemplation. Et il affirme, il peut être que le premier aimable. S'il est le premier aimable, il est donc la bonté souveraine. Et s'il est la bonté souveraine comme il est esprit et contemplation, il est amour. Donc on peut dire philosophiquement que l'être premier est amour. On peut découvrir cela. Dès que je découvre cet être premier comme étant mon créateur, je comprends qu'il y a en moi un nouvel amour, ah, c'est la dernière forme d'amour, un nouvel amour qui se creuse en moi, qui est cet amour qu'on va appeler cet appétit religieux, qui va se traduire à travers l'adoration. L'adoration, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour et de confiance à l'égard de celui dont je dépends radicalement et totalement dans mon être et ma vie. De celui dont je dépends entièrement dans mon esprit. C'est l'amour qui est victorieux de la dépendance. C'est ce que je vous ai dit. C'est ça l'adoration. C'est peut-être la meilleure définition du point de vue philosophique. C'est l'amour qui est victorieux de la dépendance. Parce que tellement facilement, nous opposons amour et dépendance. On fait psychologiquement tellement facilement. Alors il faut comprendre, au contraire, que l'adoration, c'est l'amour qui est victorieux de la dépendance. On se sert de cette dépendance radicale à l'égard de Dieu pour aller plus loin dans l'amour. c'est-à-dire adorer, et se remettre entre les mains de celui qu'on aime. Et donc, la découverte que nous faisons du Créateur, cette découverte que nous faisons au point de vue de l'intelligence, l'intelligence est capable de découvrir qu'il existe nécessairement un être premier, que les traditions religieuses appellent le Créateur. Quand je découvre ça avec mon intelligence, immédiatement s'ouvre en moi un nouvel appétit, une nouvelle forme d'amour. C'est cette forme d'amour qui se traduit dans l'adoration. Je me relie, vous voyez, je me relie, religare, hein, l'attitude religieuse, je me relie à ce Créateur dans une attitude de dépendance, dans une attitude de soumission, dans une attitude d'ouverture, d'accueil. J'accueille Dieu en moi. C'est ça l'adoration. Je deviens la maison de Dieu, je deviens le temple de Dieu par l'adoration. J'accueille Dieu en moi. Je reconnais que Dieu passe devant moi. L'adoration, c'est un geste de respect à l'égard de Dieu. Je salue Dieu. Et en saluant Dieu, je le fais passer devant moi. Et en le faisant passer devant moi, je l'accueille en moi. Donc il y a un amour tout à fait particulier dans l'adoration. C'est l'amour fondamental, le plus fondamental qui soit. C'est l'amour premier dans le petit être humain qui est une âme créée par Dieu. C'est peut-être la première forme d'amour. Mais tout à fait inconsciente. Hein? Mais tout à fait inconsciente, je peux le dire en dernier lieu. Que le petit enfant est beaucoup plus religieux qu'on ne le pense. Et il a beaucoup plus besoin qu'on lui parle de Dieu parce qu'il y a en lui un appétit naturel religieux qui doit remonter vers le Créateur. Vous voyez, le lien qu'il y a avec sa mère est très fort, mais il y a un lien encore plus fondamental, encore plus profond, c'est cet appétit religieux. Ça, je peux le dire au terme quand j'ai essayé de comprendre tout cela. Alors évidemment, ne disons pas que c'est cet appétit dont on a la première conscience. Pas du tout, alors là, ça, c'est sûrement pas. C'est très enfoui. Et si la mère est sage d'une sagesse métaphysique et chrétienne, elle comprend que cet appétit religieux est la chose la plus fondamentale dans l'âme humaine. L'âme humaine, l'âme immortelle, l'âme spirituelle, est avant tout reliée à Dieu, plus qu'à ses parents. Il y a un lien fondamental avec Dieu qui est plus profond que le lien avec nos propres parents, et que nous devons petit à petit arriver à distinguer. Il y a un amour spécial à l'égard de Dieu. Ce premier amour, c'est l'adoration. Ça se traduit dans l'adoration. Cette adoration va pouvoir s'épanouir dans une contemplation. Il y a toujours un lien entre adoration et contemplation. Naturellement, il y a un lien fondamental entre les deux. Alors, quelle différence y a-t-il entre ce premier amour fondamental qui est l'adoration et cet amour de sagesse qui est la contemplation ? Et j'allais dire que l'adoration, c'est vraiment l'amour le plus enfoui, le plus fondamental. Mais parce qu'il est enfoui, il a besoin de se dire. Vous comprenez bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est difficile d'exprimer l'amour. Et c'est très difficile d'exprimer ce premier amour à l'égard de Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit aider l'enfant à le dire. Et comme dans nous, il reste toujours le petit enfant, autrement on ne grandit pas, il y a toujours en nous cet amour très enfoui, qui est cet amour à l'égard de Dieu, qu'on n'arrive pas à exprimer. Et ça nous étouffe un peu. Et c'est pour ça qu'il faut l'exprimer. Voyez, et c'est là où le corps doit aider l'âme à exprimer cela. Il y a un geste d'adoration. Et le geste d'adoration consiste justement à faire que notre corps aide notre âme à exprimer cette remise totale entre les mains de Dieu. vous ai dit le geste. Alors le geste, c'est le corps. Hein. L'expression corporelle, c'est le geste. Elle doit aider l'âme à exprimer ce que la parole ne peut pas dire. Et le geste nous aide. C'est pour ça que rester comme des poteaux droits devant le Seigneur, sans du tout faire de génuflexion et sans faire de prostration, nous empêche d'adorer. C'est une astuce très habile du démon. Nous laisser froid en face de Dieu. On peut adorer, comment voulez-vous qu'on adore ? Je dis bonjour monsieur. Et alors on ne peut pas adorer, il faut reconnaître que nous sommes le temple de Dieu et que nous devons laisser Dieu passer devant. Et alors nous nous prostrons. La prostration, c'est l'expression du corps qui adore. Et alors à ce moment-là, notre corps nous aide à dire à Dieu « je t'aime ». Chaque fois que vous adorez, vous dites le balbutiement de l'enfant « je t'aime ». C'est ça l'adoration. C'est exprimer ce balbutiement très intérieur, très caché. C'est le « ah, ah, ah » du prophète. On ne peut pas dire autre chose. C'est pas le dit. Alors on le dit intérieurement. Et notre corps l'exprime. Exprime cette remise entière de tout nous-mêmes. C'est dit dans l'Apocalypse, vous savez tout ça. Si on sait lire l'Apocalypse. Chaque fois que Jean est en face du trône de Dieu, il se prosterne. Et chaque fois que l'agneau se prosterne, les 24 vieillards, qui sont le symbolisme de l'humanité, dans la petitesse de l'humanité, puisque ce sont des vieillards, l'enfant est parfaitement dans le vieillard. Hein. Plus on avance vers le terme, plus on revient tout petit. Face de Dieu. Hein. Alors les 24 vieillards en face du trône jettent leur couronne. C'est admirable, c'est ça le geste d'adoration. On jette ses couronnes. Qu'est-ce que c'est que la couronne ? C'est le haut fonctionnaire. C'est le savant. C'est celui qui a le droit d'aînesse. C'est celui qui a le droit. Alors on jette sa couronne. On ne peut pas adorer en tant que fonctionnaire. Le haut fonctionnaire n'adore pas. Impossible, comment voulez-vous ? Il dit bonjour monsieur. Ou plus exactement, il se laisse saluer par les autres. C'est le haut fonctionnaire. Il ne peut pas adorer, comment voulez-vous ? Il a trop de dignité. Il a trop conscience de sa dignité. Le savant comme savant ne peut pas adorer. C'est l'homme savant qui adore. Mais si l'homme est complètement pris par le savant, il n'adorera plus. Parce qu'il a son autosuffisance. C'est la même chose pour le philosophe, vous savez. Si le philosophe est un idéologue et qu'il considère que ce qui est le plus grand en lui, c'est son idéologie, le plus grand, l'idéologie comme telle refuse l'adoration. Ça ne peut pas être autrement. C'est l'homme qui adore. C'est pas l'idéologie, c'est pas la philosophie, c'est pas la science, c'est pas le haut fonctionnaire. C'est l'homme qui adore. L'homme qui reconnaît qu'il est une petite créature de Dieu. L'homme qui reconnaît qu'il y a en lui quelque chose de fondamental qui dépend de Dieu. Et c'est important ça, hein, d'essayer de dépasser le fonctionnaire. Le petit fonctionnaire et le grand fonctionnaire. Quelquefois c'est plus difficile de dépasser le petit fonctionnaire. Parce que il est bourgeois comme petit fonctionnaire. Et il est bien dans sa peau. Il a fait son petit trou. Alors il faut dépasser ça pour découvrir quelque chose de beaucoup plus profond qui est la dépendance radicale à l'égard de Dieu. C'est l'homme qui adore. Et qui adore Dieu dans sa nudité d'homme. C'est Job. Nu, je suis sorti du sein maternel. Nu, je quitterai la terre. C'est extraordinaire. Et ça, c'est la nudité intérieure de l'adoration. L'adoration nous met dans cette nudité absolue vis-à-vis de Dieu. On est dépouillé de tout. Il faut enlever la robe sans couture et enlever tout ce qui est en nous et quelque chose de vous voyez, qui vient s'ajouter, qui fait partie de notre dignité, très très bien ça, notre dignité sociale. Mais en face de Dieu, on est au-delà de l'aspect social. On est au-delà de l'aspect communautaire. Chaque fois que vous adorez Dieu seul. L'adoration est le fondement de la liturgie. Mais une liturgie où il n'y a plus d'adoration, c'est une liturgie qui devient factice. C'est le sang des boucs et des taureaux qui agace Dieu. Parce que de fait, le sang des taureaux et des boucs, s'il n'y a pas l'adoration intérieure, ça ne signifie rien du tout. Alors il faut l'expression corporelle pour que l'âme adore et pour que l'âme soit l'unisson même de ce qu'on exprime. S'il n'y a que l'expression corporelle sans l'âme, c'est du pharisaïque. C'est pas vrai. Il faut être vrai dans l'adoration. L'adoration nous met dans la vérité, nous fait toucher le roc. Alors, chaque fois que Jean est en présence de Dieu, il se prosterne. Et que fait Jésus? Il le relève. Alors, on passe de la prostration au face-à-face. Déjà, l'adoration est un certain face-à-face, mais c'est laisser Dieu passer devant. Et Dieu veut que nous le regardions. La contemplation, c'est celui qui est face à Dieu. Marie, au pied de la croix, stabat mater, elle est debout. Elle est debout au pied de la croix. Et elle est debout au pied de la croix pour regarder celui qui lui est donné, pour regarder le crucifié. Et à travers le crucifié, elle regarde le Père. Elle atteint le silence du Père. La contemplation, c'est donc à l'intérieur de l'amour, un regard. Un regard aimant. Un regard affectif. On est tout proche, le plus proche possible de celui qu'on aime. On se laisse attirer par celui qu'on aime. Quand je serai attaché sur le bois, j'attirerai tout à moi. Il ne peut pas y avoir de contemplation sans attraction. C'est pour ça qu'il y a toujours à l'intérieur de l'amour. Mais c'est à l'intérieur de l'amour un regard. C'est l'intelligence qui nous met sur nos pieds. Il ne faut pas l'oublier. C'est l'amour qui nous fait prostrer. Et l'intelligence nous fait que nous regardons à l'intérieur de l'amour celui qui nous attire, celui que nous aimons. C'est pour ça qu'on passe de l'adoration à la contemplation. La contemplation, qui est forcément une contemplation religieuse, c'est la contemplation de Dieu, il y a bien une certaine contemplation dans l'amour d'amitié. Ça fait bien. Puisqu'il y a une certaine séduction. Il y a une certaine contemplation dans l'amour d'amitié. On aime de regarder celui qu'on aime. On aime de le regarder. Je ne dis pas de le dévisager, mais de le regarder. On aime de regarder celui qu'on aime. Et on découvrira en celui qu'on aime quelque chose de très beau dans la manifestation même de son être. Mais ce n'est pas une contemplation sans absolu. La contemplation sans absolu, c'est justement de pouvoir regarder celui qui, pour nous, est la vérité. Je ne peux contempler pleinement que la vérité. Mais une vérité qui est une personne. Pas la vérité abstraite, hein. Je ne contemple pas la vérité abstraite. Je ne contemple pas des idées. Je me gargarise d'idées. Mais je ne contemple pas la vérité. Je ne contemple pas des idées. Je contemple la vérité qui est une personne que j'aime. Et par cet amour, je suis dans l'unité avec elle et je peux donc la regarder, me laisser prendre, attirer. Alors, vous voyez comment important, comment de fait tout s'achève dans cette contemplation qui est une certaine amitié avec Dieu. Certaine amitié, c'est pas une amitié au sens absolu, puisque la réciprocité et le dialogue, au point de vue proprement philosophique, ne peut pas se faire, c'est dans le silence. J'attends Dieu dans la contemplation, j'attends que Dieu me parle. Et c'est en ce sens-là que nous comprenons que l'attitude religieuse prépare directement le mystère de la foi. La foi, c'est Dieu qui vient au-devant de moi et qui me parle. Alors à partir de là, le dialogue s'établit. Humainement parlant, au point de vue philosophique, je ne peux montrer que l'attente de l'homme. Une attente de l'homme dans sa petitesse et sa pauvreté d'adoration, une attente de l'homme dans son esprit, dans l'éveil plénier de l'esprit. La contemplation, c'est l'éveil plénier de l'esprit pour tendre à regarder Dieu, pour regarder Dieu dans tous ses grands attributs. Nous contemplons la majesté souveraine de Dieu. Nous contemplons l'amour de Dieu. Nous contemplons la miséricorde de Dieu. Nous contemplons la simplicité de Dieu. Tous les attributs de Dieu sont les voies par où nous allons vers Dieu. C'est la voie, c'est les lisières, comme dirait Heidegger. C'est les lisières dans la forêt qui conduisent à ce centre qui est Dieu. Et tous ces attributs que nous découvrir en Dieu. Dieu est la majesté souveraine, Dieu est l'amour, Dieu est la lumière. Je peux dire tout cela au point de vue philosophique. Dieu est l'acte pur, Dieu est absolument saint, Dieu est parfait. Et je contemple Dieu à travers ses attributs, dans ses attributs. Dieu lui-même est ineffable. Mais par ses attributs, il y a un lien. C'est le lien qui se fait, ce lien religieux et contemplatif qui se fait par où je contemple Dieu. Alors, cette contemplation qui est le sommet de l'activité humaine, je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas aller plus loin que d'être face à Dieu. Je ne peux pas aller plus loin que adorer et contempler. Cette adoration et cette contemplation, loin d'être rivales de l'amour d'amitié, au point de vue humain, sont au contraire des gardiens. Alors ça, c'est aussi très important à comprendre. Hein? Parce qu'on a toujours un peu peur de Dieu. Toujours un peu peur. Le vieil Aristote se posait la question. Est-il souhaitable à mon ami de devenir Dieu? Alors voyez ça, l'époux se pose la question. Est-il souhaitable que mon épouse devienne une sainte? Alors le vieil Aristote répond, non, parce qu'il ne serait plus mon ami. C'est très très joli ça. Ça c'est la frousse du païen à l'égard de Dieu. Toujours un peu peur de vous. Dieu, si Dieu prend possession de mon ami, si mon ami devient Dieu, il ne sera plus mon ami. Et l'époux dit, si mon épouse devient trop sainte, elle ne sera plus mon épouse parce que Dieu la prendra entièrement. Bien ça, c'est pas juste, c'est faux. On comprend très bien qu'on dit ça. C'est tout à fait humain, c'est tout à fait naturel de le dire. Mais c'est pas vrai. Plus nous aimons Dieu, plus nous l'adorons, plus nous le contemplons, plus nous devenons capables d'aimer ce que Dieu aime. Et ça, c'est vrai même au point de vue purement philosophique. Plus nous aimons Dieu, plus nous approchons de Dieu, plus notre cœur devient limpide, plus notre cœur se purifie, plus notre volonté est capable d'aimer et d'être attiré par Dieu, plus nous devenons capables d'aimer ceux qui sont proches de nous, plus nous les respectons. Mais très souvent, hein, il faut bien se dire ça, très souvent, dans la croissance de l'amour d'amitié, très souvent, cet amour ne peut pas aller aussi loin qu'il devrait aller, parce qu'il y a un manque de respect de l'autre. Il y a une familiarité qui fait qu'il y a un manque de respect. Alors que plus on aime, plus on devrait être respectueux. Respectueux de son âme, respectueux de son corps. Il y a un respect du corps. On aime le corps dans la mesure où on le respecte. S'il n'y a pas de respect du corps, il n'y a pas d'amour. Il devient un instrument. On l'utilise. Alors voyons. Il n'y a pas d'amour au sens propre. Alors que quand on aime quelqu'un, on respecte tout ce qui est lui. Et donc le respect va jusqu'au corps, jusqu'à la sensibilité de l'autre. Alors quand on aime Dieu, aimer Dieu et adorer Dieu nous donne un sens beaucoup plus profond de l'absolu de la personne humaine. Et alors ce sens beaucoup plus profond d'absolu de la personne humaine fait que j'ai un respect beaucoup plus grand dans l'amour d'amitié à l'égard de l'autre. Donc vous voyez, déjà au point de vue proprement philosophique, je vois comment cette adoration et cette contemplation à l'égard de Dieu me permet d'aimer plus et de développer davantage mon amour d'amitié. Mais je respecte la différence entre les deux. Ce ne sera qu'au plan surnaturel que je pourrai dire que l'amour à l'égard de Dieu et l'amour à l'égard du prochain, c'est le même mot. Ça, c'est au point de vue de l'homme. C'est par le cœur du Christ que je peux dire ça. C'est par la médiation du cœur du Christ que je peux dire ça. C'est le propre de la médiation du Christ qui me permet de dire que l'amour à l'égard de Dieu et l'amour à l'égard du prochain, donc l'époux peut dire l'amour que j'ai pour Dieu et l'amour que j'ai pour mon épouse, c'est le même amour. Dans l'ordre de la charité divine. Et donc, à ce moment-là, la rivalité est complètement dépassée. Mais elle est déjà dépassée au niveau proprement humain. Mais au point de vue humain, évidemment, on distinguera l'amour à l'égard de Dieu et l'amour à l'égard du prochain. C'est pas un. Parce que c'est deux amours distincts. L'un est commandé par l'adoration, l'autre est commandé par le choix rituel. Et puis alors ce soir, nous répondrons aux diverses
questions. Mais c'est très important parce que non, mais il y a une part de votre problème. Est-ce que vous pouvez prendre les 10 modalités à partir de la corrigence?
Rien, aucune question.
Parce qu'on a plus sur votre prière.
C'est merveilleux,
mais c'est de faire comprendre les choses.
C'est extraordinaire.
Pas de questions. Ouais, ça vaut que c'est la fin du cours.
Est-ce que vous pouvez apprendre ce que j'avais fait plus loin et le corriger un peu, parce que j'ai repris un peu tout ce que vous avez fait d'une autre manière. J'aimerais que vous corrigez.
Alors, on me demande d'essayer de comprendre le point de vue. Ah oui, ça. Oui, je vois très bien, je vois très bien. De reprendre les dix modalités de l'amour. Hein. Vous comprenez qu'il faut essayer, c'est complexe, hein, ce que nous avons essayé de comprendre par rapport à l'amour ce matin. J'ai essayé de vous donner comme une nouvelle vision de sagesse pour comprendre les diverses, qu'est-ce que c'est que l'amour, et voir qu'en nous, les modalités de l'amour. Bon, alors on va mettre d'un côté, si vous voulez, le point de vue philosophique, ici le point de vue théologique. Philosophique et théologique. Et ce soir, le point de vue mystique. Alors, parce que le tableau ne voit pas, le point de vue mystique, ça prendrait le tableau. Alors, point de vue philosophique. Je vous ai dit, l'amour instinctif, c'est un amour. L'instinct est un amour, une forme très fondamentale d'amour, une forme très cachée, très souterraine, mais c'est une forme d'amour. Mais c'est un amour souterrain, un amour instinctif. Et cet amour instinctif, il est double. L'individu et l'espèce. L'amour à l'égard de l'aliment, l'amour à l'égard de la fécondité. Alors c'est la véhémence qui caractérise l'amour instinctif. Ça, je crois qu'on est tous d'accord. La véhémence est le caractère aveugle. L'amour instinctif est aveugle. Il est déterminé et aveugle. C'est du responsable qu'on dira que l'amour est aveugle. Mais il est aveugle, l'amour instinctif. C'est pour ça qu'il est si véhément. Il n'y a aucun frein, aucune possibilité de freiner. Alors vous comprenez que c'est difficile quand vous êtes en face d'un amour instinctif véhément et qu'il poursuit sa route. Deuxième modalité, l'amour passionnel. Alors l'amour passionnel a 10 modalités. Il y a l'amour passionnel qui est l'amour et tous les autres amours, puisqu'il y en a 11. Donc il y a 10 modalités. Vous voyez, c'est curieux. Hein, vous retrouvez les 10 modalités. Vous voyez bien, parce qu'il y a 11 passions.
Et que la première passion, c'est l'amour. Donc, ce n'est pas une modalité, celle-là. Donc, il y a 10 modalités d'amour. Puis, vous avez l'amour idéal, disons idéal. Un amour idéal qui est l'amour esthétisant, l'amour romantique, qui a un caractère particulier, celui-là. Très particulier. Les fantaisies, la fantasia dans l'amour. Il y a des gens qui ont de la fantaisie dans l'amour et qui aiment de le montrer. Et c'est un amour qui se manifeste. Et c'est très curieux. L'amour instinctif est caché. Et l'amour idéal se manifeste. Il se dit, il se chante. Quand j'aime, je chante. Quand je suis amoureux, je chante. Quand je suis ivre, je chante et je crie. N'est-ce pas ? Ça fait partie de l'ivresse. Alors c'est quelque chose d'assez particulier. Puis alors, l'amour spirituel. L'amour spirituel, l'amour volontaire. J'aime et je veux aimer. Et alors je vous avais dit, il faut découvrir dans cet amour volontaire les 10 modalités. Vous voyez, si on fait une philosophie de l'amour, hein, je crois que c'est très important dans notre monde d'aujourd'hui. Et seule une philosophie réaliste peut aller jusque-là. Donc il faut le comprendre. Et ce serait peut-être, vous voyez, le moyen, parce que les gens sont toujours intéressés sur l'amour. Hein. C'est toujours intéressé, il suffit de faire une conférence sur l'amour pour avoir des quantités de gens. Évidemment, je me souviens, c'était à Fribourg, il y avait inexistable là-dedans. Il y avait des religieuses extrêmement distinguées, très très distinguées, la fine fleur de l'Europe, qui recevait la fine fleur de l'Europe. Je ne sais pas, de partout, mais c'était très nettement, c'était la fine fleur de l'Europe qu'on recevait. Alors il y avait, là entre autres, là, il y avait une sœur particulièrement distinguée, elle était française, particulièrement intelligente, extraordinaire. Alors elle m'avait dit, j'aimerais bien si vous pouvez faire venir des amis, faire des cours de philosophie, j'ai dit très très bien. J'ai un très bon ami que je connais bien, je vais faire venir, si vous voulez, monsieur de Montléon, que j'aime bien, que j'aime beaucoup, il fera sûrement pour vos jeunes filles, quelque chose de très très bien. Alors, très bien, c'était décidé, puis alors, 8 jours avant, je lui ai dit, ce sera sur quel sujet ? Alors, je lui ai dit, ce sera sur l'amour. La pauvre mère ne savait. C'était pas. Elle l'avait envoyé une fille me demander ça. Elle est anglaise. Alors elle a répété évidemment. La sœur m'a redemandé. J'ai pas très bien compris. J'ai pas très bien compris. C'était sur quoi ? Alors j'ai dit mais ce sera sur l'amour. Ah tiens tiens. Alors en contre, ne vous inquiétez pas. Sûrement très très bien. C'est une philosophie sur l'amour. Alors j'ai été, parce que ça m'intéressait de voir y aller. Alors c'était très amusant, les religieux étaient là au premier rang. Et puis derrière les filles, c'était. Alors M. de Montléon a commencé à dire, je vais vous parler bien de vous. Évidemment, on peut en parler de diverses manières. Et puis j'ai commencé, je vais faire une philosophie de l'amour. Alors à ce moment-là, tout de suite, les religieuses ont été calmées. C'était une philosophie d'amour, c'était quelque chose donc, qui était absolument quelque chose que tout le monde pouvait entendre. Alors, il faut comprendre que c'est très vrai que si on fait comme une philosophie de l'amour au point de vue d'une philosophie réaliste, on montre par là qu'on peut dire certaines choses que je crois. Que seule une philosophie réaliste peut dire. Parce que les idéologies ne peuvent pas nous parler de l'amour. La dialectique ne peut rien nous dire sur l'amour. C'est ça qu'il faut bien comprendre. L'amour ne croît pas dialectiquement. La croissance de l'amour n'est pas dialectique. C'est une croissance de vie. Mono, hein, qui n'est pas précisément thomiste, qui n'est pas précisément aristotélicien, Monod dit cette chose très jolie dans son livre « La nécessité du hasard ». Chose très très belle. Il dit « La vie n'est pas dialectique ». J'aime d'entendre ça de Monod. La vie n'est pas dialectique. La croissance de la vie ne progresse pas dialectiquement. C'est très très important de comprendre ça. C'est la raison humaine qui est dialectique. C'est la raison humaine qui progresse dialectiquement. Mais ce n'est pas la vie et ce n'est pas l'amour. Alors, si évidemment j'ai une méthode dialectique, je ne pourrais rien dire sur l'amour. Ça fait comprendre des quantités de choses, hein, parce que ça aide à saisir. À comprendre que de fait il faut reprendre toujours. L'amour ne se saisit que dans un jaillissement, c'est une source d'amour. Alors la dialectique c'est une méthode, c'est pas la même chose qu'une source et une méthode, pas tout à fait la même chose. Une source ne se saisit pas par une méthode, c'est une canalisation d'une méthode, tandis qu'une source ça saisit directement, il faut l'expérimenter. Une source, en boire. Alors, on sait ce que c'est qu'une source. Tandis que la méthode, c'est différent en mesure. Alors, il faut essayer de saisir ici les 10 dimensions. Alors, j'espère que vous avez réfléchi. Je vais écrire sur votre dictée. Alors, premièrement, nous avons vu, premièrement, l'aspect extase, l'extase, l'amour est extatique. L'amour est extatique. Et l'amour implique capacité d'accueil. Ça, je vous l'ai dit, j'espère que vous êtes d'accord. Deuxièmement, l'amour a une force de conquête. L'amour est victorieux. L'amour est victorieux. Toujours, dès qu'on aime, on est victorieux. L'amour est victorieux et l'amour en même temps implique une vulnérabilité. Plus j'aime, plus je suis vulnérable. Mais en même temps, plus j'ai de la force. Il faut bien comprendre. Les deux viennent. Hein. C'est pas opposé. L'amour est au-dessus de la vulnérabilité, l'amour est au-dessus de la force de conquête. Mais il y a les deux dans l'amour. Alors, troisièmement. J'avais laissé le blanc. Jean-Louis Miel. Qu'est-ce que vous
dites? L'amour en pauvre, et en même temps, l'amour met dans la surabondance.
Bon, l'amour implique la surabondance. Ça, c'est. On assume Platon, là. On assume le banquet. Hein. Peña et Poros. L'amour provient, l'amour est né. C'est le mythe du banquet, admirable. Il faut voir, c'est une chose très étonnante, une très belle chose, le mythe du banquet. Alors on voit comment l'amour naît de la surabondance et de la pauvreté. Et c'est vrai ça, l'amour implique la surabondance et la pauvreté. C'est-à-dire, dès que j'aime, je deviens pauvre. Et la pauvreté, c'est accepter la dépendance. Vous voyez ? Et la surabondance, vous voyez ? Alors la surabondance, c'est la générosité. Mais ce n'est pas la même chose que la force de conquête. La force de conquête, vous voyez, là, on assume les racines. La force de conquête. Et le point de vue de la vulnérabilité, c'est l'autre aspect, la lutte. Tandis qu'ici, la générosité, c'est un peu le lien entre les deux. Hein. C'est la générosité et la surabondance. Alors, quatrièmement.
Lucidité.
La lucidité. L'amour implique, c'est très curieux, quand on dit que l'amour est aveugle, hein, je vous avais dit l'amour instinctif. L'amour spirituel donne une force de pénétration. Alors, disons lucidité, je crois, ou force de pénétration. Vous voyez, l'intelligence perspicace. Alors, l'intelligence perspicace, c'est l'amour. Alors, on peut dire la perspicacité de l'intelligence. Vous voyez, et pas l'intelligence perspicace. On peut dire la perspicacité. L'amour est perspicace. L'amour a une espèce de flair. On flaire les choses, on les pressent. un pressentiment de l'amour. L'amour pressent les choses. Vous voyez, prenez le radar. L'amour nous donne un radar vis-à-vis de tout ce qui nous attire et tout ce qui au contraire, serait un obstacle. Alors il y a ça. C'est très difficile à préciser. Ce n'est pas l'intelligence. Hein. Alors c'est la capacité profonde de sentir ce qui nous convient. Oui. Cette espèce de capacité de sentir. C'est ça, la lucidité, mais en ajoutant capacité de sentir ce qui nous convient, ce qui est convenience. Le convenience latin, c'est très difficile à traduire, parce que ce qui nous convient, on prend tout de suite le point de vue utilitaire. Le convenience latin va plus loin, c'est tout ce qui est en harmonie avec nous. Oui. L'amour est harmonieux, si vous voulez. Pourriez dire ça. Il y a une harmonie dans l'amour. Il y a une harmonie dans l'amour. L'amour implique un ordre, une harmonie. Alors, lucidité, capacité de pénétration, harmonie. Et puis alors, parallèlement, quoi ?
L'obscurité.
Oui, l'obscurité d'amour. L'amour a toujours quelque chose qui demeure obscur, caché. On va mettre caché. L'amour implique quelque chose de caché. Alors, cinquièmement, l'amour a quelque chose d'au-delà du temps et l'amour nous donne le réalisme du temps. Vous voyez, je crois que ce sont les 10 notes de l'amour. Par là, nous pourrions faire une philosophie de l'amour. On ne la fait pas avant que je la fasse. Hein. Mais je vous laisse la possibilité, si vous la faites, vous êtes là. Pas mieux, parce qu'elle n'est pas faite. Et je crois qu'on doit la faire. On doit la faire. Et on doit la faire parce que c'est très important de comprendre cela. Alors, vous voyez, ce serait, si on la faisait, hein, si on la faisait... C'est la générosité de la sagesse. Hein. La sagesse se donne sans ennui. Alors, si vous voulez faire un petit topo là-dessus, vous pouvez dire, c'est original, personne ne l'a encore fait actuellement, donc, faites-le. Alors, vous voyez qu'il y aurait un parallélisme à faire avec les 10 modalités de l'amour passionnel. Ce serait très intéressant. On verrait un parallélisme entre les deux. Bon. Alors, maintenant, je vais passer du côté théologique. C'est théologique. Alors ici, je me sers de ce qu'on a dit ici. Bon. Si je prends l'écriture, je vois que l'écriture nous donne toute une série de symbolismes sur ce que représente l'Esprit Saint, qui est l'amour. L'Esprit Saint, c'est l'amour en Dieu. C'est l'amour personnel, c'est le fruit de l'amour. C'est l'amour de l'amour. Hein. Donc c'est l'amour au carré, si vous voulez. C'est l'amour. Alors, il y a toute une série de symbolismes. Il y a le feu. Il y a le souffle. Il y a l'aigle. Il y a la colombe. Et puis, il y a le doigt de Dieu. De Dieu. Le feu, le souffle, c'est évidemment ça avant tout. On pourrait dire qu'il y a l'eau vive. Hein, l'eau vive, parce qu'on est à l'eau vive. L'eau vive, est-ce que l'eau vive est un symbolisme de l'Esprit Saint? Ou est-ce que l'eau vive, c'est le symbolisme de l'âme liée à la source? Je crois, beaucoup plus. L'eau vive, c'est le symbolisme de la charité. Ce n'est pas le symbolisme du Saint-Esprit. On ne dit jamais que le Saint-Esprit, c'est l'eau vive. Tandis qu'on dit que le Saint-Esprit, c'est le feu. L'eau tout court, c'est la créature. Et l'eau vive, c'est la créature liée au Créateur. C'est lié à l'Esprit Saint. Vous êtes eau vive quand vous êtes lié à l'Esprit Saint. Alors à ce moment-là, vous êtes l'eau vive. Oui. C'est ça, l'eau vive. C'est un lieu qui est lié au Saint-Esprit. J'espère que vous l'avez senti. Alors, qui est lié au Saint-Esprit, et donc dans laquelle il faut y avoir le souffle. Alors, il y a le feu, il y a le souffle, il y a l'air. Alors, si je regarde le feu, c'est le point de vue, évidemment, de la véhémence. Mais ici, hein, je lis les choses, hein, les flammes, les braises, le feu, tout ce qui est le point de vue du charbon ardent, le buisson qui brûle et qui ne se consume pas, tout ce point de vue-là. Alors le feu, c'est évidemment la violence. La violence du feu, la véhémence du feu. Et en même temps, oui, l'intimité, l'intériorité. Oui, on peut mettre ça, l'intériorité. Le feu ne fait pas nombre. Hein. Le charbon est brûlé par le feu. Et il est dans le charbon. Le bois est brûlé par le feu. Et le feu est dans le bois. Le feu peut être intime à toute chose. Et alors transforme toute chose. Et lui donne une espèce d'intériorité nouvelle. Alors il y a la violence et l'intériorité. Le souffle, c'est la souplesse, la force, c'est vrai, la force et la souplesse. Alors, est-ce que la souplesse et la vulnérabilité, on peut le dire d'une certaine manière. L'aigle, le symbolisme de l'aigle, c'est évidemment le point de vue de la jalousie. Dieu est un dieu jaloux. C'est l'aigle. L'aigle, la jalousie, le zèle, on peut dire ça, et le point de vue de la fécondité, l'aigle. Ouh, la fécondité est plus du côté de la colombe. C'est ça qui est curieux. La colombe, c'est la ferveur et la fécondité. Et le doigt de Dieu, c'est l'efficacité. C'est l'efficacité, le doigt de Dieu. Et c'est l'efficacité dans le sens. Le doigt de Dieu, c'est qui était inscrit sur les tables de la loi. Les tables de la loi sont inscrites par le doigt de Dieu. Alors c'est le caractère impératif de l'amour. C'est le caractère impératif. Oui. Le feu implique la purification, mais l'intériorité, c'est aussi purification. Vous voyez, il faut mettre purification. Parce que les purifications sont ou des purifications du feu, ou des purifications du souffle. Ce qui est sûr, c'est que le doigt de Dieu implique le point de vue de l'efficacité, le point de vue de la nécessité. L'amour, c'est ce qui est le plus nécessaire, c'est le doigt de Dieu, c'est la nécessité. Vous voyez que c'est plus souple, hein, parce qu'on est dans l'ordre symbolique. Ici, on est dans un ordre d'analyse philosophique. Mais ça se recoupe, évidemment. Ça se recoupe. Ce qui est curieux, c'est qu'on a ces symboliques qui sont très, très...